Bonsoir à toutes et à tous. Du grain à moudre, c'est aussi tout l'été. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Après les fake news, voici les fake science. Le phénomène a été épinglé la semaine dernière par un groupement de 23 médias internationaux qui ont collaboré sur le sujet, dont en France le journal Le Monde. La part prise par la fausse science dans la production scientifique mondiale a en effet augmenté de manière considérable depuis une dizaine d'années. Selon les chercheurs finlandais Sen Yushen et Bo-Christer Björk, la quantité d'articles douteux aurait été multipliée par 8 entre 2010 et 2014, passant de 50 000 à environ 400 000. La place prise ces dernières années par l'obligation de publier pour les chercheurs ou les laboratoires, au risque sinon de périr, a évidemment renforcé le phénomène. On a vu apparaître des journaux dits « prédateurs » qui ne respectent pas les règles élémentaires de la vérification, mais profitent de ce marché estimé à 25 milliards d'euros annuels. Le développement de l'open access ou science ouverte, l'accès gratuit aux articles pensés d'abord pour faciliter la circulation des idées contre la cherté des revues à comité de lecture, n'a pas arrangé les choses. Le problème dans tout ça, c'est que la science même de la... Le problème dans tout ça, c'est que le système même de la validation scientifique est atteint. Les pouvoirs publics en ont pris conscience. Un seul exemple, en 2011, est publié un code de conduite européen pour l'intégrité de la recherche. Alors peut-on encore croire les scientifiques ? C'est la question du grain à moudre d'été à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr.
Si les scientifiques n'utilisent pas une seule méthode, alors comment décident-ils ce qui est vrai et ce qui est faux? Et qui juge? Et la réponse est que les scientifiques jugent et ils jugent en jugeant des preuves. Les scientifiques collectent des preuves de différentes manières, mais peu importe la façon dont ils les collectent, ils doivent les soumettre à un examen approfondi. Cela amène le sociologue Robert Merton à se concentrer sur la façon dont les scientifiques analysent les données et les preuves. Et il a déclaré qu'il les faisait avec une méthode appelée un scepticisme organisé. Ils considéraient ça comme organisé parce qu'ils le font collectivement, ils le font en groupe, et le scepticisme, c'est parce qu'ils se placent en position de méfiance. Ça signifie que la charge de la preuve incombe à la personne qui a une nouvelle affirmation. Et en ce sens, la science est intrinsèquement conservatrice. Il est très difficile de persuader la communauté scientifique de dire « oui, nous savons quelque chose, ceci est vrai ». Donc malgré la popularité du concept de changement de paradigme, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, les changements majeurs de la pensée scientifique sont relativement rares dans l'histoire de la science.
Voilà un extrait d'une conférence TED de Naomi Oreskes. On aura peut-être l'occasion de parler des conférences TED, c'est intéressant. Ce phénomène de vulgarisation scientifique qui s'est emparé du monde depuis quelques temps. Naomi Oreskes est une historienne des sciences qui pose bien là les enjeux de la vérification et de la vérité scientifique qui va nous occuper tout au long de cette émission. Bonsoir Dominique Le Glu.
Bonsoir.
Pardon, vous étiez en train de boire un petit peu avant de prendre la parole. Vous êtes directrice de la rédaction de Sciences et Avenir et de la recherche de publications, qui sont plutôt des publications de vulgarisation scientifique. Il ne s'agit pas de revues à comité de lecture, comme on dit, mais ce sont évidemment ces revues à comité de lecture qui font la base, le fondement de votre travail. En studio avec nous aussi pour poser cette question de faut-il croire encore les scientifiques. Michel Cosnard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'HCRES, qui est le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Du HCRS, devrais-je dire, plutôt pour être correct.
Très bien.
En studio depuis Nice, à France Bleu, Côte d'Azur, Philippe Unemann, bonsoir.
Bonsoir.
France Bleu Azur, ça suffit, c'est pas France Bleu Côte d'Azur, je crois. Vous êtes philosophe de la biologie, directeur de recherche à l'IHPST, l'Institut de l'Histoire et de la Philosophie des Sciences et de la Technique, qui est sous tutelle du CNRS et de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Alors, petit exercice de définition, si vous le voulez bien, les uns et les autres, pour commencer cette émission, de comprendre un petit peu de quoi on parle quand on parle de cette fausse science, fake science, en rapport aux fake news, évidemment. On va essayer d'employer le terme plutôt français au cours de cette émission, si vous le voulez bien. De quoi il s'agit exactement, selon vous? Comment vous entendez cette expression, Michel Cosnard? Il s'agit, quoi, ça peut pas parler de l'erreur scientifique, puisque l'erreur est intrinsèque, évidemment, à la recherche scientifique. C'est plutôt une forme de malveillance, une forme d'évolution de la recherche scientifique?
C'est très difficile de qualifier la fausse science. C'est toute la différence entre l'erreur et la faute. Une erreur est non intentionnelle. Une faute est intentionnelle. Et l'intentionnalité, c'est ce qui est le plus difficile à prouver. On va parler plutôt de répétitivité dans l'erreur. Quelqu'un qui maintient des affirmations que d'autres ont démontrées comme étant fausses ne peut plus dire qu'il ne savait pas que c'était faux. Et donc, cette fausse science, qui a toujours existé, elle fait l'apologie de certaines croyances ou de certaines convictions, avec ça peut être des intérêts particuliers, etc. Mais elle les fait dans un but précis, qui est soit de se promouvoir soi-même, soit des intérêts économiques, soit des intérêts de groupes de pression. Et non plus dans ce qui est le fait même de la science, qui est la recherche de la vérité, d'une certaine vérité, basée, comme l'a très bien dit la première oratrice, sur des faits. Des faits scientifiques.
La vérité jusqu'à preuve du contraire, pour reprendre l'expression consacrée qui est employée tous les jours par le camarade Nicolas Martin dans la méthode scientifique et qui s'intéresse beaucoup à ces questions puisqu'il a lancé un podcast natif. Je profite pour faire un peu d'autopromotion qui est diffusé aussi le samedi en ce moment et le dimanche sur France Culture, qui s'appelle Les Idées Claires et qui pose la question justement de ces fausses vérités scientifiques. Il va parler des chemtrails par exemple ce samedi. C'est supposées traînées chimiques laissées par les avions. Mais Dominique Le Glu, peut-être vous prêtez aussi à cet exercice de définition et peut-être aussi nous dire dans quel contexte arrive cette enquête du Monde et d'un certain nombre d'autres publications.
Mais alors ce qui me frappe, c'est que, on va dire, la fausse science, fake science. Mais rappelez-vous, on a souvent dit les fausses sciences. Alors, à une époque, quand on parlait de fausses sciences, typiquement, à quoi pensait-on ? À astrologie versus astronomie ou astrophysique. Et on disait, c'est l'astrologie qui va prédire, en principe, ce qui va vous arriver parce que vous avez tel ou tel lion en Verseau ou poisson en Sagittaire. Et donc, ça va conditionner vos réactions et votre vie. On disait ça, c'est une des fausses sciences. Là, ce dont on parle actuellement, et vous avez basé votre début d'émission sur cet article qu'a écrit notre confrère Le Monde, nos confrères du Monde, c'est au cœur même de la science.
Avec l'apparence de la vraie science.
Exactement. Des personnages, des individus peu recommandables qui utilisent tous les codes. Donc le code de la revue dite primaire, celle où l'on publie ses résultats, avec de fausses revues par les pairs, autrement dit, cette méthode sur laquelle nous reviendrons certainement, qui est, comme disait Churchill de la démocratie, la pire chose à l'exception de toutes les autres, autrement dit, on ne sait pas vraiment faire autrement. Ouais. Et ensuite, ce sur quoi insistent nos confrères, c'est même l'élaboration de conférences qui sont ni faites ni à faire. Et ceux qui y participent, on peut se demander pourquoi d'ailleurs ils y participent, si c'est à l'insu de leur plein gré, hein, on est encore dans le Tour de France, rappelez-vous, ou bien s'ils savent à quoi
ils s'exposent, évidemment.
Et finalement, tout le monde se faisant avoir à quel niveau ? Ben, au niveau pas seulement des neurones, mais aussi du portefeuille.
Au niveau du portefeuille, l'enjeu économique est évidemment très important, mais on va aussi parler de l'enjeu pour les sciences elles-mêmes. Philippe Hünemann, je rappelle que vous êtes philosophe des sciences, philosophe de la biologie très exactement. Comment est-ce que vous avez vu arriver, émerger ce thème ? Voilà, la semaine dernière, on en a un petit peu parlé à l'occasion de cet article du Monde. On a plus parlé d'un autre article du Monde, il faut bien le dire, depuis, mais celui-ci était quand même important. Et c'est pas nouveau non plus, cette question.
Non, alors c'est pas du tout nouveau. Je suis très content de participer à cette émission parce qu'en fait, C'est un thème sur lequel j'ai travaillé et avec des collègues, il y a donc sociologues qui tiennent une revue d'études sur les sciences qui s'appelle Zilzel, du nom d'un sociologue et philosophe des sciences disparu. Le prochain numéro sort en septembre et c'est là-dessus, c'est-à-dire que c'est sur les journaux prédateurs, les conférences bidons, etc. Et donc, je pense que le phénomène n'est pas nouveau, il s'est amplifié, et je pense qu'on aura le temps d'en reparler, il s'est amplifié depuis une dizaine d'années suite à, en miroir des évolutions de la recherche et de la politique de la recherche. Si on veut essayer de définir la chose, je pense que comme l'a rappelé Dominique Leglue, fake science, je ne suis pas vraiment convaincu par l'expression. Il y a plusieurs choses. À côté de la science, il y a les pseudo-sciences comme l'astrologie, l'alchimie, ces choses qui étaient tenues pour des sciences par les gens qui les pratiquaient, puis on s'est rendu compte que ça ne l'est pas. La science fausse, évidemment, l'erreur, et puis quelque chose qui serait de l'ordre de la parodie de science, donc pas exactement. Et puis la non-science. Quand vous vous occupez de biologie, en particulier de biologie évolutive, il y a quelque chose avec lequel vous êtes familier, c'est la différence entre non-science et fausse science, parce que c'est le cœur du débat entre, enfin c'est pas vraiment un débat, mais du problème du créationnisme ou du dessin intelligent, donc des gens qui rejettent la théorie évolutive, c'est est-ce que c'est faux le créationnisme ou surtout le dessin intelligent, ou est-ce que c'est pas de la science, c'est-à-dire que les procédures par lesquelles ces énoncés sont obtenus ne sont pas du tout scientifiques. Et donc, c'est ni vrai ni faux. Alors, pour définir toutes ces choses qu'il y a autour de la science, le plus simple, c'est d'essayer de définir un peu ce que c'est que la science. Bon, alors, c'est bien entendu difficile, parce qu'il y a des centaines de philosophes des sciences qui font ça depuis des décennies, et il n'y a pas vraiment de consensus. Mais si on veut être le plus général possible, il suffit de partir d'une chose très simple qui est les énoncés ou les croyances. Donc, par exemple, je crois qu'il pleut. Bon, ça peut être vrai ou faux. Et le point essentiel, c'est qu'une croyance vraie, c'est pas forcément une connaissance. Je peux juste dire il pleut sans regarder dehors par la fenêtre et puis j'ai de la chance, il pleut. C'est vrai, mais c'est pas une connaissance. Et donc, on va dire que c'est une connaissance en général à partir du moment où je peux justifier cette croyance vraie que j'ai. Par exemple, je peux dire oui, il pleut, je l'ai vu par la fenêtre, oui, il pleut à Madrid, je l'ai lu dans le journal. Et ce qui est important dans la justification, c'est que c'est une procédure de production de croyances qui est fiable. Si je lis quelque chose dans un journal, dans Le Monde par exemple, c'est relativement fiable. Alors la science, c'est un sous-ensemble des connaissances en fait, et je pense que elle se définit par précisément ces procédures fiable de
vérification et de production du savoir, évidemment. Et donc, vous avez parlé, par exemple, de ces journaux prédateurs. Philippe Hulman, c'est intéressant d'introduire dès maintenant un petit peu cet acteur important du monde des fausses sciences, Michel Cosnard. Les journaux prédateurs, ce sont des journaux qui se présentent comme des journaux à communauté de lecture, c'est-à-dire avec des scientifiques qui réviseraient, qui reliraient les articles avant publication, évidemment, et qui en fait ne présente pas toutes les caractéristiques, on va dire, de rigueur nécessaires pour ceci ou pour cela. Et donc ces journaux prédateurs, on a vu leur multiplication, et ils reposent en fait sur ce système, il faut peut-être y revenir même si on l'a déjà dit un petit peu, ce système de vérification qui est au cœur même de la science, qui est celui, voilà, il faut qu'une expérience, elle soit vérifiable, il faut qu'elle soit reproductible, il faut évidemment que les pairs puissent s'en emparer pour la refaire le cas échéant et démontrer qu'elle est juste ou fausse.
Alors, pour bien comprendre cette question des revues prédatrices, il faut comprendre ce basculement qu'il y a eu avec l'avènement du numérique. Là encore, c'est la faute à l'informatique, j'allais dire. Le numérique a fait que le coût de diffusion est devenu nul. Vous pouvez transmettre à la Terre entière, à tous les habitants de la Terre, une information à un coût quasiment nul. Il suffit d'être connecté à Internet. Et donc, ce qui au préalable coûtait cher, c'est-à-dire la publication et la diffusion, est devenu gratuit. On a donc changé de modèle, et ce n'est plus le lecteur qui va payer, comme avant on achetait sa revue, on achetait son quotidien, etc. Mais il faut trouver un autre payeur. Et cet autre payeur, eh bien, ça va être l'auteur. Donc on est passé d'un modèle où c'était le lecteur qui payait à un modèle où c'est l'auteur qui paye. En ce sens, pas de grande
difficulté, mais quand même une difficulté particulière, c'est l'auteur qui paye. Si vous ajoutez à cela le deuxième grand phénomène, celui dont vous avez parlé, le « publish or perish », comme on dit en anglais, « publier pour ne pas périr », pour ne publier pour exister, qui fait que chaque pays veut exister, chaque chercheur veut exister dans son pays, qui fait qu'il y a donc une augmentation de la demande de publication, de la demande à publier dans tous les pays, eh bien, vous rendez compte que les auteurs sont prêts à payer pour être publiés, non pas pour être lus, mais pour être publiés. Et c'est peut-être sur un point il faudra revenir. Il y a une différence entre être publié et être lu. Et pour cela, eh bien, des gens peu scrupuleux ont décidé d'en voir un modèle économique assez performant. Vous récupérez des publications avec des auteurs qui sont prêts à payer, d'où le terme de prédateur, et vous les diffusez. Au préalable, ce que faisaient les revues ayant pignon sur rue, les grandes revues scientifiques, eh bien, c'est qu'on effectuait une sélection. Puisque c'était le lecteur qui payait, on pouvait sélectionner les auteurs. Là, le modèle économique, il est inverse. Si vous créez une revue, vous avez intérêt à ce qu'il y ait beaucoup d'auteurs. Vous n'avez pas intérêt à sélectionner, donc vous avez intérêt à tous les accepter.
Alors Dominique Leglue, Michel Costin nous parle évidemment de l'importance de l'informatique, du numérique dans cette évolution, notamment en baissant le coût de diffusion. Mais il faut bien dire que le coût de diffusion n'avait rien à voir avec le coût d'achat des revues, des grandes revues scientifiques qui atteignent des sommes astronomiques. Et c'était d'ailleurs un problème qui était pointé du doigt et qui a amené un certain nombre de chercheurs à saluer l'arrivée de l'open access et de la possibilité d'avoir accès, de faire circuler les idées scientifiques gratuitement avec des acteurs mastodontes. On parle souvent d'Elsevier par exemple, qui est un éditeur qui est une sorte de monopole, enfin un quasi-monopole sur les revues scientifiques et qui faisait payer des sommes absolument astronomiques en dizaines de milliers d'euros d'abonnement sur des revues. Or là, on a un petit peu l'effet pervers avec les journaux prédateurs de cette évolution.
C'est tout à fait l'effet pervers total, puisque c'est volontairement que des gens trichent. Et où ça devient quand même assez compliqué, c'est que dans les systèmes d'open access, vous pouvez avoir, j'allais dire, de l'open access à plusieurs vitesses. Je m'explique. Vous pouvez avoir une publication. Je suis chercheur, je publie et en quelque sorte, je mets ça dans la nature et je vais voir ce qu'en pensent les collègues. Mais je pourrais aussi mettre cela en open access après l'avoir fait relire par quelques pairs qui bien choisi. Du coup, vous pouvez avoir de l'open access revu et de l'autre qui n'est pas revu. Il y a plusieurs niveaux. Alors là aussi, il y a des articles scientifiques sur ce phénomène qui s'efforcent de donner des noms à peu près clairs pour savoir dans quel étage on se trouve. Du déjà contrôlé, du pas du tout contrôlé. Rappelez-vous, cette histoire qui était sorti de neutrinos, sauf erreur de ma part, qui allait plus vite que la lumière. Tout le monde avait sauté sur cette histoire en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va remettre tout en... ça va tout bouleverser, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ?»
Je rappelle que vous avez fait des études de physique. Tout le monde n'est pas forcément familier avec les neutrinos et leur rapport
la vitesse de la lumière. C'est tout à fait normal. Le neutrino est une particule extrêmement subtile et qui a bien des mystères. Mais en tout cas, bon, rien ne doit dépasser la vitesse de la lumière. Donc là, ça posait un problème majeur.
Ça, on l'a tous appris à l'école.
De fait, ceux qui avaient posté leurs résultats, c'est parce qu'eux-mêmes, ils disaient « Non, mais c'est pas possible, on a trouvé un truc, là, c'est pas possible, il doit y avoir un artefact quelque part, aidez-nous » Donc, ils avaient fait appel à la communauté pour aller pointer...
Pour démontrer les erreurs, oui.
Exactement. Mais rappelez-vous, au milieu, quand ça a été traité par même des journaux quotidiens, ils ont été accusés d'en rajouter. Alors là, ça devient ambigu.
Oui, on est dans une zone grise, Philippe Huneman, évidemment, quand on parle de ces fausses sciences. Alors peut-être qu'il faut, pour que nos éditeurs comprennent un petit peu mieux de quoi on parle, se demander à quoi ça ressemble véritablement, la fausse science. Est-ce qu'on est face à une forme de négligence? Est-ce qu'on est face à une forme de nuisance? Est-ce que c'est de la falsification, de la fabrication? De quoi on parle exactement? Et si vous aviez un exemple pour nous éclairer, ça nous aiderait bien, je pense, Philippe Huneman.
Oui, alors, donc déjà pour que l'auditeur se représente la chose, quand vous êtes chercheur, vous recevez tous les jours 3, 4, 10, si vous avez un très mauvais anti-spam sur votre email, invitation à publier dans ces revues ou à aller dans ces conférences qui ont des titres ronflants, qui parfois sont extrêmement généralistes. Je ne sais pas, ça va être par exemple médecine, biocomputation et sciences des matériaux. Et en général, vous les jetez, vous ne les lisez pas. Mais donc, ils viennent vous chercher. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que, en fait, effectivement, les revues, parfois, se donnent même pas la peine de publier les articles. C'est-à-dire que j'en ai cherché sur une des revues. Ça, c'est des bouquets de revues. Vous avez un gros site avec un éditeur. Vous avez 50 revues dessus. Quand vous cliquez, en fait, soit la revue n'existe pas. Et quand vous cliquez sur la revue, les articles, vous cliquez dessus. Et puis, eux, les articles n'existent pas. Donc, c'est une vitrine, mais évidemment.
Mais quel est l'intérêt alors pour ces maisons d'édition, parce qu'on cite beaucoup les Indiens, les gens, Omix, oui. Le Turc Vazet.
Il y en a, comme vous le rappeliez, oui, il y en a des milliers qui appartiennent chacun par dizaines ou plutôt par centaines à un gros éditeur. Et en fait, comme le rappelait Michel Cosnard, ça coûte quasiment rien. Vous allez avoir une boîte postale quelque part à Ankara ou à Bombay. Ce sera votre adresse, votre siège. Et puis vous allez envoyer des emails exactement sur le principe, par exemple, des spams nigérians, enfin, vous savez, des arnaques par email. Donc ça, c'est une chose. Les auteurs payent à peu près 500 euros par article. Vous avez 10 articles par journal, 12 numéros par an. Et 100 journaux, vous faites la somme, vous faites quand même pas mal d'argent à la fin. Donc ça marche comme ça. Après, effectivement, les chercheurs peuvent rajouter ça dans le CV, ça fait une ligne de plus. Il y a tellement de journaux, tous les journaux ont des noms qui se ressemblent. Donc finalement, vu de loin, International Journal of Medicine et Journal of Medicine, il peut y avoir l'un qui est un journal bidon et l'autre pas. Mais si vous n'êtes pas vraiment expert, vous n'allez pas le savoir. Alors après, les choses sont un petit peu plus compliquées parce que les vrais journaux, des Cell Nature, sont des journaux les journaux de médecine qui font payer les auteurs vraiment. C'est d'ailleurs ça qu'on reproche beaucoup, entre autres, à Elsevier. Elsevier, Springer, Wiley et Taylor & Francis, ceux qui monopolisent toute l'édition scientifique, non seulement ils font payer très très cher, mais en plus ils font aussi payer les auteurs. Donc si vous voulez, c'est le modèle de la kermesse à l'école. Vous fabriquez un gâteau et ensuite vous le faites vendre et vous l'achetez. C'est un peu ça. Et le financeur est généralement, en particulier en France, la recherche publique, l'argent public. Donc, et l'autre fait, c'est que la limite entre les vrais journaux et les journaux bidons, et c'est quand on regarde un peu et quand on travaille un peu là-dessus, c'est ça qu'on voit, est relativement floue. Par exemple, un gros éditeur comme Taylor & Francis a des très gros journaux qui sont très réputés, et puis des journaux qui ne font pas vraiment de peer reviewing, d'évaluation par les pairs. Ils le font très vite, ils publient quasiment n'importe quoi. Et quand ils rejettent quand ils rejettent quelque chose qui arrive dans un, entre guillemets, bon journal, on pourra revenir sur ce qu'est un bon journal, ils suggèrent à l'auteur d'envoyer à un mauvais journal, mais toujours Taylor & Francis. Et donc, de toute façon, Taylor & Francis récupère l'argent. Alors, je ne veux pas faire, évidemment, de...
D'accord. Donc on voit que c'est très complexe et que c'est une architecture très complexe et un petit peu floue, Michel Cosnard, mais qui ne poserait pas vraiment de problème si tout ça restait finalement circonscrit, à ces revues. Le problème, c'est que ça vient irriguer le reste de la science. Et notamment, on le retrouve sur Web of Science, Scopus ou Google Scholar, qui sont des agrégateurs, on va dire, de ces articles. Et donc, la crainte et la possibilité, et même c'est avéré, c'est de voir des mauvais résultats ou des mauvais articles venir irriguer de vraies recherches de gens, de scientifiques qui sont honnêtes dans leur démarche.
Alors, pourquoi publier dans ces revues? Eh bien, effectivement, vous l'avez dit, parce que certaines évaluations se font sur la base de la quantité des publications. Et certains évaluateurs sont assez peu regardants quant à la publication elle-même, voire la revue dans laquelle elle a été publiée. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai des chiffres là d'une étude qui vient d'être publiée. Ça se passe au Brésil. Le Brésil a cette particularité que tous les chercheurs doivent tenir à jour un site web dans lequel ils mettent toutes leurs publications, et c'est sur la base de ce site web que leur carrière va être gérée. On parle de 100 000 chercheurs, à peu près 102 000. On parle d'un nombre de publications de 2000 à 2015 qui est de 2 400 000. Eh bien, si on regarde les publications qui sont dans des revues prédatrices, qu'est-ce qu'on va voir? On va en trouver 0,5%. On me dit 0,5%, c'est pas beaucoup, mais 0,5% de 2 400 000, je vous laisse faire le décompte, mais ça doit pas être loin de 10 000. Quand même, 10 000 publications dans des revues prédatrices, c'est-à-dire pour lesquelles des auteurs ont payé, etc. Alors l'analyse, je vous la recommande parce qu'elle permet aussi de comprendre qui sont les auteurs. Et les auteurs sont en général de deux types. Des jeunes auteurs, des jeunes chercheurs qui vraisemblablement, et c'est là qu'on parle d'erreur en quelque sorte, ne savent pas quelles sont ces publications. Et on peut penser que leurs articles ne sont pas obligatoirement mauvais, mais comme ils sont jeunes et peu connus, ils peuvent très bien avoir été refusés dans une grande revue. Et donc le chercheur, eh bien, comme il doit quand même avoir une publication, on va la placer là. Ou des auteurs plus confirmés qui, eux, savent certainement de quoi il s'agit. Alors, j'en viens donc à une question importante, c'est comment distingue-t-on une revue prédatrice d'une revue qui n'est pas prédatrice? Comment ensuite peut-on former les chercheurs? Parce qu'ils ne le savent pas. Dans beaucoup de cas, ils ne savent pas ce qu'est une revue prédatrice, si une revue est prédatrice ou pas. Et finalement, pour votre question, ces grandes bases de données de Scopus ou de Web of Science, en général, contiennent peu, assez peu de revues prédatrices. Le Web of Science semble être le meilleur, avec 1 pour 1000 et un nettoyage assez constant. Scopus est un peu moins bien, à 2 pour 1000.
D'accord. Voilà qui est dit, Dominique Le Glu. Alors, comment on fait la distinction, puisque j'imagine que ça fait partie de votre travail, à vous, en tant que directrice de la rédaction de Sciences et Avenir et de la recherche, de ne pas tomber dans le panneau, en quelque sorte?
Oui. De fait, vu le nombre absolument hallucinant de publications, vous doutez que on fait des choix. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que dans les revues dont on pourrait dire qu'elles sont secondaires, tout ce dont nous venons de parler, ça s'appelle des revues primaires. C'est là que les chercheurs publient. Donc les revues d'après, ou bien les journaux quotidiens, ou bien des sites web qui s'intéressent aux sciences, vont s'inspirer de certains de ces articles scientifiques. Mais attention, ça ne fonctionne pas que comme ça, l'écriture dans les magazines comme Science et Avenir et La Recherche. Nous choisissons déjà des thématiques assez ciblées et susceptibles, du moins nous l'espérons, d'intéresser nos lecteurs et lectrices in fine. Donc, vous voyez que déjà, il y a une, certains diraient un biais, on pourrait dire une sélection extrêmement forte de nos sujets. Donc, ces revues prédatrices, il faudrait vraiment qu'elles sortent quelque chose d'absolument extraordinaire, et là, on se poserait tout de suite la question, c'est si extraordinaire que ça, allons voir, dans une revue dont on n'a en gros jamais entendu parler, que se passe-t-il? On aurait quand même des antennes qui se mettraient à vibrer. Ou c'est plus compliqué? C'est, rappelez-vous des exemples, alors là, juste énormes, dans des revues qui ne sont pas prédatrices, comme Science, hein, la grande revue américaine, qui est une émanation de l'Association américaine pour l'avancement de la science. Il y a eu un cas qui était quand même, j'allais dire croquignolé, c'est un peu léger d'utiliser un terme comme ça, de ce chercheur sud-coréen qui prétendait avoir cloné un humain, en avoir tiré des cellules souches qui allaient permettre de résoudre certains problèmes, de s'attaquer à certaines maladies, etc. Ça avait été publié dans Science, une des plus grandes revues mondiales, et tout le monde a embrayé derrière. Ce qu'il y a, c'est que, toujours pareil, revu par les pairs, des journalistes en Corée du Sud qui ont dit « Oh là là, c'est énorme ce truc, c'est énorme, allons regarder !» Et ça a été démasqué.
Donc ça finit quand même par être démasqué.
Oui, C'est, on peut être optimiste. Les choses finissent par être démasquées.
France Culture, du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
18h44, vous écoutez France Culture, du grain à moudre d'été. On pose cette question ce soir. Peut-on encore croire les scientifiques avec nos trois invités? Dominique Le Glu, qui est directrice de la rédaction de Science et Avenir et de la Recherche qu'on vient d'entendre. Michel Cosnard, qui est le président du HCERES, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, et Philippe Hunemann, qui est philosophe des sciences. Alors, on essaye de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière cette fausse science, derrière ces revues ou ces conférences organisées et dont le journal Le Monde a révélé, ou en tout cas a appuyé, a montré l'existence et surtout le business assez juteux. Une affaire juteuse, c'était l'un des titres des articles publiés par Le Monde. On a compris que l'enjeu financier était important, mais tout de même, il doit y avoir aussi peut-être d'autres enjeux. Philippe Hunemann, est-ce qu'on peut parler aussi d'enjeux militants, c'est-à-dire de voir que ces revues prédatrices, elles peuvent aussi servir à la diffusion, par exemple, de propos climato-sceptiques, quand on sait que le GIEC, donc le groupement international de scientifiques, est à peu près d'accord à 99% sur la cause humaine du réchauffement climatique, voilà, ou des anti-vaccins, par exemple, des débats évidemment qui ont agité dernièrement le débat public, avec parfois des fondements pseudo-scientifiques qui sont piochés dans ces revues.
Oui, alors effectivement, il y a comme un recouvrement entre les revues prédatrices ou bidons qui sont des parodies, en un sens des parodies de nos scientifiques, parce qu'encore une fois, le processus de production fiable du savoir n'est pas celui qu'on attend de la science. Et puis des journaux militants qui par exemple seraient consacrés, alors il y a un journal des études sur le 11 septembre qui est exclusivement consacré à montrer que le 11 septembre n'a pas été l'œuvre de terroristes islamistes. Mais après, je pense que c'est quand même extrêmement minoritaire, et je crois qu'à un moment de la discussion, on touche un peu du doigt le fait que si on laisse ces journaux militants un peu à part, parce que je pense que ça relève d'une autre problématique, on voit que les journaux prédateurs, c'est pas juste un phénomène complètement isolé des bons et vrais journaux. Dominique Le Glu rappelait l'histoire du clonage par le biologiste sud-coréen. Et je pense qu'effectivement, l'évaluation des chercheurs, ce que doit faire un chercheur pour prouver que c'est un bon chercheur, c'est quelque chose qui est vraiment au centre de l'histoire. Il n'y aurait pas ces journaux si, effectivement, il n'y a pas une très grosse pression à publier. Il y a un article qui est paru récemment, il montre que depuis 2005, par exemple, pour être recruté biologiste en France, hein, vous devez publier beaucoup plus. Donc, vous attendez 8 ans en moyenne au lieu de 3 ans. Mais surtout, par an, vous voulez publier plus d'articles par an, par unité de temps, qu'en 2005.
Alors, et donc, ça tombe bien parce qu'on a on a Michel Cosnard ici, qui est le président du HCERES, le Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et puisque vous posez, je vous redonnerai la parole bientôt, Philippe Hunemann, puisque vous posez cette question de l'évaluation et du rôle de l'évaluation des scientifiques dans la croissance, l'émergence de cette fausse science, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est paradoxal finalement? Il faut évidemment évaluer les chercheurs, c'est une nécessité, mais c'est quoi? C'est les outils qui pêchent l'outil notamment du nombre, tout simplement. Alors,
l'évaluation, c'est un sujet très complexe, bien sûr, parce que là aussi, il y a aussi de la fake evaluation. Je vais y revenir. Mais bon, d'abord, publier, c'est bien. Être lu, c'est mieux. Être cité, c'est encore mieux. Donc, voilà ce qu'on avait coutume de dire lorsque j'étais jeune chercheur. Donc, on essayait d'avoir les meilleurs résultats pour que d'autres puissent les utiliser. C'est le principe de l'avancement de la science. On prend un article, on travaille dessus, on essaye d'aller plus loin. Et donc, on cite ses sources. Bien. Malheureusement, même là encore, sur les citations, vous pouvez aussi fabriquer des réseaux de citations et donc fabriquer de la fausse science, en un sens, la fausse citation. Vous pouvez même avoir des agences d'évaluation bidons. Il y a des pays dans lesquels vous pouvez avoir des certificats de qualité que vous payez. Donc ce système existe. Je rappelle qu'une des missions du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est de valider les agences d'évaluation opérant en France. Alors que faut-il faire? Eh bien, il faut revenir
au béaba, c'est-à-dire qu'il faut, l'évaluation, c'est l'évaluation par les pairs, donc prendre des experts dont on est sûr de la qualité, autant que faire se peut, puisqu'il y a toujours, l'erreur est toujours possible, et ensuite rentrer dans le contenu. Les listes de publications ne suffisent pas. Ce que nous avons fait au HCRS, et nous allons amplifier ce phénomène, c'est, nous évaluons tous les laboratoires de recherche français, nous demandons à chacun d'entre eux quels sont les 20% de leur production scientifique qui sont les plus importants. Et on leur demande pourquoi. Ce n'est pas parce que c'est publié dans une grande revue que c'est le plus important. Ça peut être parce que ça a donné lieu à un brevet, parce que ça a donné lieu à la création d'une entreprise, ou tout simplement parce que ça a résolu une question qui était ouverte. Et ça, le pourquoi de la science et la méthodologie qui a été utilisée prend tout son sens. Et jugé par des pairs, alors là, ça devient difficilement réfutable.
Dominique Le Gluant, on touche là peut-être au-delà de cette question de la fausse science, véritablement la façon dont la science se construit aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années, voire un certain nombre de siècles, parce que ce que vient de décrire Michel Cosnard, finalement, ça n'est rien que le fonctionnement depuis un certain nombre d'années de la science, et c'était rappelé par Naomi Oreskes dans le son qu'on a diffusé au début de l'émission. Et donc, on est aujourd'hui à un tournant, puisque par exemple, quand on parle des fake news, on nous dit, voilà, ça entame beaucoup le crédit des journalistes. Est-ce que cette fausse science, elle entame beaucoup le crédit des scientifiques ? C'est un peu pour ça qu'on a intitulé l'émission « Peut-on encore croire les scientifiques ?»
Avec ce que vient de dire Michel Cosnard, on a entendu au moins deux choses. Les scientifiques, mais aussi les institutions elles-mêmes. Et il est clair qu'aujourd'hui, les institutions elles-mêmes ont tout intérêt à être d'une prudence de sioux. Peut-être qu'elles ne l'ont pas encore totalement mesuré, parce que c'est effectivement compliqué. Je n'ai pas cité tous les chiffres que donnait à une époque le PDG, il ne l'est plus maintenant, du CNRS, Alain Fuchs. Bon, ça date de 2015, mais bon, c'est encore valable. Il disait, alors je retrouve
vous
mes
avez perdu
chiffres.
Vos chiffres,
non, difficile à chiffrer. Voilà, plus de 40 000 publications ont porté la signature CNRS en 2014. Et bon, quand on parlait de la fraude, il disait, bon, c'est difficile à chiffrer, bon, une dizaine de cas par an. Voilà, c'est ce qu'il disait en 2015. Bon, ça c'est une chose, mais effectivement, il va falloir qu'elles fassent très attention, ces institutions, pour elles-mêmes, pour garder leur crédibilité, les scientifiques à l'intérieur. Mais je voudrais rappeler quelque chose, et c'est en lien avec ce que vous avez passé au tout début de l'émission. Il y a eu un vrai pavé dans la mare en 2014, quand cet Américain qui s'appelle John Ioannidis a dit que près de 85% des articles scientifiques seraient faux ou n'apporteraient rien, mais surtout, on n'arriverait pas à les reproduire. Et la question de la reproductibilité des expériences pose un problème au cœur même de certaines branches de la science. Par exemple, en psychologie, certains des psychologues vont vous dire « mais c'est très très difficile de reproduire très exactement l'expérience que nous avons faite ». Or, pour apporter la preuve de la qualité de la première expérience, il faudrait faire une deuxième expérience qui prouve que la première avait été bien faite. Vous imaginez le truc. Autre chose, ce que l'on appelle les résultats négatifs, dont on voit, et ça rejoint votre propos Michel Cosnard, que souvent ce n'est pas publié, alors même que cela donnerait des éléments supplémentaires pour un bon jugement. Mais généralement, quand on trouve quelque chose qui est négatif, on n'a plus envie de le publier.
On n'a plus envie de le publier.
Ah ben voilà.
Philippe Unemann, juste un mot, on arrive presque au bout de cette émission, et donc on en arrive à ce moment où on pose les questions existentielles à 4 minutes de la fin. Tout ce qu'on a dit, ça montre à quel point la science est évidemment une construction historique, une construction sociale, et qui repose beaucoup sur la notion de confiance, presque la notion de foi.
Alors, je dirais pas foi, je dirais confiance au sens que, par exemple, si vous prenez une tendance depuis une dizaine d'années, depuis beaucoup plus que ça, même le nombre moyen d'auteurs par article a augmenté énormément. On a passé le seuil de plus de 1000 articles, de 1000 auteurs sur certains articles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il y a beaucoup de personnes impliquées dans un article, chacun maîtrise un morceau. Il y a le statisticien qui sait exploiter les données. Si vous faites des neurosciences, il y a la personne qui sait exactement comment marche la machine d'imagerie. Il y a celui qui fait de la science cognitive, celui qui connaît le cerveau. Chacun fait confiance à tous les autres sur le fait qu'il apporte un savoir consistant, établi, etc. Et donc, si vous voulez, c'est ces chaînes de... Alors, techniquement, on appelle ça déférence. Hein, on défère à d'autres pour le savoir qu'on va utiliser. Sont de plus en plus longues. Donc, effectivement, cette confiance est vraiment très... de plus en plus nécessaire.
Et puis surtout, ces chaînes, elles rendent difficile cette idée de reproductibilité. C'est-à-dire que, évidemment, j'imagine qu'un neuroscientifique a du mal à juger de la qualité ou de pouvoir même reproduire ce que lui proposent les gens avec qui il collabore, comme vous venez de le dire.
Quand vous écrivez même à 20, vous êtes pas absolument, vous savez pas refaire, par exemple, les justifications de certains des énoncés que vous avez employés. Et donc ça, cette confiance, elle est à l'intérieur de la science, entre disciplines, et si vous voulez, si on en revient à effectivement cette question de la quantité qui augmente d'articles scientifiques et de publications, vous êtes dans une situation, quand vous êtes chercheur, de compétition très 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 sévère, en fait. En particulier compétition pour l'argent, évidemment, puisque la science maintenant coûte très cher. À l'époque de Buffon, vous faisiez une expérience, vous noyez 3 chats dans du lait, ça coûte rien, ça coûte des chats. Maintenant, si vous faites des neurosciences, même de l'imagerie juste, mais vous avez la machine, mais ça peut coûter 20 000 euros juste l'expérience. Donc, il y a une question d'allocation des ressources. Et donc, dans cette situation de compétition extrême, il y a des incitations, c'est comme dans le sport de compétition, il y a une incitation au dopage assez forte. Bah, dans la science, il y a quelque chose comme ça aussi, de faire une petite entorse au règlement pour passer devant les autres. Donc, soit frauder un peu, soit plagier un peu, soit...
Soit parfois donc, mettre en avant des résultats de manière un petit peu qui ne sont pas à proprement parler fausses, mais peut-être mettre en avant voilà ce qui est le plus sexy. Exactement. J'allais dire chercher un autre mot, mais j'en c'est trouvais ça. Pas, donc je vais c'est utiliser celui-ci.
Mais oui, parce que quand vous êtes en compétition pour des budgets, et ben faut savoir vendre ce que vous faites. Donc par exemple, vous allez pas dire on va analyser telle zone du cerveau dans des conditions particulières. Vous allez dire on va trouver le siège de l'intelligence. J'exagère un peu, mais
c'est une façon évidemment d'orienter les choses. Un dernier mot, Michel Cosnard, parce qu'on arrive vraiment vraiment au bout sur un petit mot de conclusion finalement sur tout ce qu'on vient de dire. Et est-ce que ce problème de confiance, il vous paraît central aujourd'hui? Est-ce qu'on en fait un peu beaucoup? Puisque vous avez rappelé aussi qu'il y avait assez peu, finalement, de cette fausse science qui trouvait sa place aujourd'hui. On en est où, finalement?
Alors, la transparence est fondamentale. Et donc, il faut que les chercheurs acceptent d'être le plus transparent possible. Y compris, même, en mettant en risque leur recherche. Je pense que cacher les choses, eh bien, n'est pas la bonne attitude, la transparence. Alors, ce qu'il faut voir dans ces statistiques, c'est qu'elles mêlent des statistiques qui sont très variables. Le phénomène est un phénomène grave en Asie et dans certaines régions du golfe arabo-persique. Et il est en train de gagner, malheureusement, l'Afrique. Pour l'instant, dans les grandes économies avancées, ce phénomène reste très
marginal. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder cette dimension de la mondialisation, finalement, dans le développement de la fausse science, mais ce sera probablement l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup à tous les trois, Dominique Le Glu, Michel Cosnard et Philippe Huneman. Philippe Huneman, rappelez-nous votre revue, le titre et le nom qui sort en septembre sur le sujet.
Alors la revue s'appelle Zilzel, Z-I-L-S-E-L, c'est la revue Zilzel numéro 4.
Et bien très bien,
voilà, on pourra peut-être... publier éditions du Croquant.
Et bien ce sera disponible, j'en suis sûr, Science et Avenir. Allez tiens, le sexe, il y en a plusieurs et il peut changer, c'est la couverture du dernier numéro que vous nous avez apporté, Dominique Leglu. Pardon. Je signale tout de même que France Culture est engagée dans cette lutte contre la fausse science, surtout avec le camarade Nicolas Martin dans la méthode scientifique et à travers ses idées claires tous les week-ends, la samedi à 13h50, il nous parle des chemtrails. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Laïla Saïdi, Camille Ferré, Céline Leclerc, Marine Lerouge et Imen Mélaz. À la réalisation, c'était Anne de Pelchin. À la prise de son, Jacques Hézubert.